Pauline Pucciano, La cité hantée. Partie 3, chapitre 8, Adhésion populaire. On avait installé les corps à l'abri du soleil et de la pluie, sous une tonnelle de fleurs odorantes, au milieu de la place ovale, au pied de la statue d'Albâtre. Les rituels funéraires de la haute ville, qui s'étaient rapidement imposés dans l'ensemble de la cité, prévalaient. Les visages étaient maquillés de blanc, de noir et d'or, et l'on avait quelque peine à reconnaître les traits de ceux que l'on avait connus ou aimés et que la mort aujourd'hui rendait identiques. Même Irène, qui n'avait pas aimé la cité, bien que certains aient dit qu'elle avait donné sa vie pour elle, était exposée là comme une fille d'Albâtre. À Eleanor et Keller avaient choisi de s'y rendre avant de se rendre au forum où les débats devaient avoir lieu. La ville devait à la fois honorer ses morts et se positionner. À Eleanor avait tenu à ce que les deux cérémonies soient voisines, jumelées, presque simultanées, car pour elle, il s'agissait bien de venger les morts d'hier et de prévenir ceux de demain. Les deux événements devaient être séparés pour la dignité et le silence que l'on devait aux morts, mais réunis dans le cœur des citoyens. Beaucoup d'entre eux les suivaient. Ils marchaient côte à côte, le visage presque aussi fermé que ceux des corps gisants. Aumont les avait précédés au forum et donnait les dernières instructions pour le bûcher funéraire qu'on dresserait à la tombée de la nuit, à la porte nord, car le vent soufflait dans cette direction. Les gens étaient déjà nombreux, et même surnuméraires. Le forum était cependant conçu pour ouvrir toutes grandes ces immenses doubles portes et permettre à une foule nombreuse d'entendre les tribuns. Les pragmatistes se faisaient discrets ce matin, mais ils étaient là, et dès qu'Eleanor arriva, le peuple, déjà plus silencieux que d'ordinaire, se tut, dans l'attente de l'événement. Aumont prit la parole d'un ton grave. « Citoyens de la Nouvelle-Albâtre, je vous salue, et je vous remercie d'être si nombreux à prendre part aux affaires publiques en cette journée de solstice, marquée d'un deuil si cruel. » La démocratie n'est pas encore tout à fait mise en place, et vous n'avez pas encore élu votre représentant souverain. Nous faisons donc appel à vous directement, en ce jour, pour prendre une décision cruciale. Devons-nous nous armer contre la menace de la Guilde de l'Ombre et marcher sous la montagne, ou bien renoncer à cette lutte et éviter la guerre à tout prix ? Le représentant des pragmatistes, l'ancien chancelier Ruben, va s'adresser à vous pour tenter de vous convaincre de choisir la tente. Des huées fusèrent parmi les rangs, ainsi qu'un vague murmure réprobateur qui s'étrangla de lui-même au bout de brefs instants. Aumont poursuivit. La représentante des idéalistes, Eleanor, ancienne apostate et mère de la Révolution, va tenter de vous convaincre d'organiser une attaque. Des vivates avaient salué le nom d'Eleanor et surtout le titre mythique de mère de la Révolution. Mais l'évocation d'une attaque laissa tout le monde de marbre. Aumont lança une obole en l'air pour le traditionnel tirage au sort. « Pile, la parole est au pragmatiste. » Le vieil homme, drapé d'une toche de deuil traditionnelle, bicolore noire et blanche et brodée de fils d'or, monta à la tribune et s'éclaircit la voix. « Il ne m'est pas facile aujourd'hui de plaider ma cause quand je sais que le son de mes paroles tombera dans les oreilles scellées par l'or et par la mort de nos 14 frères et sœurs. Mais ma voix s'élèvera malgré tout, pour vous montrer un chemin de vie et d'espoir qui les aurait peut-être sauvés, car ils sont morts au combat, tout comme mourront ceux d'entre vous qui accepteraient de partir en guerre contre une force qui nous dépasse. Partons en guerre contre la foudre, partons en guerre contre la tempête. Nous, humbles mortels qui vivons dans notre humble cité, avons-nous besoin de provoquer les colères célestes et telluriques, de déchaîner contre nous des éléments qui chevauchent le temps et traversent l'espace, qui transcendent la mort, les corps et toutes les sciences que nous connaissons. Ne serait-il pas, mes frères, infiniment plus sage de prier pour que ces éléments qui nous transcendent nous oublient dans leur course incompréhensible et passent à côté de nous sans nous voir ? Nous sommes des fourmis face à ces géants, et notre bien le plus précieux, notre unique chance de salut, réside dans l'invisibilité. Si nous vivons notre vie de mortels inoffensifs, pourquoi ces demi-dieux voudraient-ils nous nuire ? Mais nos pauvres frères et sœurs ont été induits à agir avec un orgueil insensé, et c'est contre cet orgueil, mes frères, que je vous mets en garde. Vous avez lutté contre l'oppression, Et vous, natifs de Basseville, vous avez réussi l'exploit de maîtriser toute une cité plus riche et plus aguerrie que vous. Mais les hauts citoyens étaient-ils des démons capables de posséder vos corps, de faire bouillir l'eau des thermes, de faire trembler la terre? Aujourd'hui, nous sommes tous unis face à une menace infiniment différente, et vous devez réfléchir à la mort certaine qui attend ceux qui, comme nos frères et sœurs écrasés dans la fleur de leur âge, ont follement défié un pouvoir incommensurable. Partez en guerre, mes frères, vous ne reviendrez pas. Vous périrez sous les tonnes aveugles de roches, et vos corps broyés ne seront jamais désensevelis. Partez, et laissez-nous pleurer votre absence, et endurez la vengeance inhumaine de ceux que vous aurez offensés. » Un silence profond suivit les dernières paroles de Ruben, qui, avec un fatalisme presque sublime, quittait la tribune. Eleanor croisa son regard un instant, et le vit étincelé d'une sorte de malice. Il avait joué son rôle impeccablement, comme un vieux sage révoqué par les fous, et dont la prophétie salutaire n'est crue par personne. Si l'expédition tournait mal, on se retournerait vers lui comme vers la bouche de sagesse qu'on n'a pas su écouter à temps. Eleanor était vêtue d'une toge noire, qui semblait prolonger sa chevelure, et faisait étrangement ressortir l'éclat du visage blanc, de la pierre frontale bleue et des lèvres rouges. « Lorsque la lâcheté s'exprime, noble citoyen d'Albâtre, elle s'exprime toujours en imitant la voix de la sagesse. Je ne prétends pas, quant à moi, être sage. Les seuls sages que j'ai connus sont tous morts de la main du même homme, jusqu'à cette jeune fille, Irène, la diseuse essentielle, qui nous a tant appris et tant donné. Ces sages étaient pacifiques, pleins de bonté et d'une austère rigueur. Leur pacifisme les a conduits au tombeau. Notre ennemi n'est pas un dieu, ni une force élémentaire, mais un homme, né d'une femme, et dont les pouvoirs extraordinairement dangereux sont cependant limités. Cet homme a un corps vulnérable, des adeptes, un repère et des faiblesses que nous connaissons. Il ne peut manipuler notre esprit pendant qu'il se dématérialise hors de son corps. Il ne peut livrer deux combats en même temps. Et quand bien même nous irions à la mort, avons-nous d'autre choix que d'espérer le vaincre? Mon premier-né m'a été enlevé. Mon fils Artus semble avoir perdu l'usage de l'esprit suite à l'attaque de Sornar. Ma cité a perdu 14 de ses enfants. Ai-je le choix? La cité a-t-elle le choix? La voix d'Aélénor subit alors une sorte d'altération, comme si elle devenait plus viscérale. La cité a les flancs percés, ses cris deviennent stridents à l'approche du prédateur, et sa force folle décuple à chaque blessure de ses enfants. La cité est la louve qui a rompu ses liens, et dont la course ne s'arrêtera que dans la coulée rouge et brûlante du sang. La cité, couverte d'acier rutilant et de larmes rouges, est en guerre. Elle sortit brusquement de son état de transe, avec le léger vertige consécutif aux utilisations intenses de l'esprit, et se rendit compte avec une grande honte que son visage était baigné de larmes. C'était un terrible manquement à la pudeur pour un natif de Hauteville, et elle s'attendait à un désastre. Le vacarme qui éclata lui parvint comme à travers une brume ouatée, et elle ne parvenait pas à en saisir pleinement le sens. Elle mit quelques secondes à comprendre que le peuple l'acclamait. Alors elle s'essuya le visage et regarda ses amis. Aumont paraissait très ému, et Keller la regardait si intensément que ce regard la soutint et la raffermit comme s'il lui avait donné le bras. De l'autre côté des gradins, Ruben et Daphnae jouaient des coudes pour quitter le forum le plus discrètement possible. « Rassure-toi, Ruben, c'était son chant du cygne !» souffla Daphnae quand ils furent arrivés dans une rue plus calme. « Je l'espère !» grommela le vieillard. « Ont-ils la moindre chance de vaincre Sornar ?» Ruben s'arrêta un instant. « Avaient-ils la moindre chance de faire la révolution, Daphnae ? Combien aurais-tu misé sur eux il y a 3 ans ?»« Mais tu l'as dit toi-même, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. » « Sornar ne voulait pas la détruire il y a 3 ans. Et s'il la protégeait encore ?» Daphnae haussa les épaules. « Tu délires, Ruben, et tu m'exaspères. Je rentre chez moi et te laisse ruminer tes angoisses séniles et stériles. Moi, je vais prendre un bain, boire du vin de rose et faire venir mon amant. » Ruben la regarda s'éloigner, onduleuse et insoucieuse. Les revers, les morts, les dangers, ne l'atteignait pas plus que des contrariétés mineures. Il était prêt à parier qu'elle était de plus mauvaise humeur lorsqu'elle avait le teint brouillé que lorsqu'on attaquait sa cité. Puis il prêta l'oreille aux clameurs lointaines qui provenaient toujours du forum. Elle se trompait. Ce n'était pas un chant du cygne. C'était le chant de la guerre, où son oreille attentive percevait déjà les accents du triomphe. Lorsque la nuit descendit sur la cité, un cortège silencieux accompagna, à la lueur des flambeaux, les 14 cercueils vers la porte nord. On les disposa avec beaucoup de précautions, parallèlement les uns aux autres, sur le grand bûcher commun, rectangulaire, que l'on avait préparé. Un chant traditionnel, en langue noble, fut entonné, puis on versa l'huile funéraire, de façon à ce que le feu, en prenant, accomplisse une sorte de spirale avant l'embrasement complet. Des crépitements furieux et des odeurs fortes montèrent alors du bûcher. Celle de la chair brûlée était masquée par celle des épices entêtantes et des parfums oléagineux qu'on avait mêlés à l'huile. Au bout d'un long moment de recueillement, les artificiers, qui avaient l'habitude d'opérer de manière presque invisible, répandirent sur le bûcher, à l'aide de longues pipes d'un bois particulier, la poudre légende. Alors, dans un tonnerre, les flammes redoublèrent de hauteur et passèrent miraculeusement par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans une incandescence si éblouissante et une odeur si âcre que tous les spectateurs eurent les larmes aux yeux. C'était ainsi, et ainsi seulement, que la haute ville autorisait, à la faveur de la nuit, l'effusion si longtemps retenue des larmes du deuil.